matin, nous allons continuer notre série de prédications dans le livre de Daniel, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et notre passage se trouve à la page 572. 572, et donc c'est Daniel, chapitre 3. On va lire à partir du verset 31. Et avant de faire la lecture, je vais prier. Prions. Merci notre bon Père Céleste, que tu es un Dieu qui parle, qui se révèle, qui s'est révélé de manière complète en Jésus-Christ. Et notre Père, nous voulons te demander ce matin de nous parler par ta parole, cette parole qui révèle Jésus. Nous avons besoin de tes paroles. Nous ne pouvons pas vivre de pain seulement. Nous avons besoin de tes paroles vivifiantes, nourrissantes. Et notre Père, nous voulons te demander d'être à l'œuvre par ton esprit dans nos cœurs pour que nous puissions en effet te voir plus clairement, te connaître plus sincèrement, t'aimer plus sincèrement et te suivre plus fidèlement. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, Daniel, chapitre 3, on va lire à partir du verset 31. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue, habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands. Que ses miracles sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui me présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. » Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires, l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient. C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel. Et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ces actes sont vrais. Ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, dans les infos de cette semaine, il y a eu deux faits marquants, je pense. La crise en Ukraine et la crise dans la zone euro. Et dans ces deux crises, nous voyons des jeux de pouvoir. Qui est le vrai souverain de l'Ukraine? Qui va décider de son avenir? À la une d'un magazine, je pense que c'est Le Point, il y a eu une photo du président russe avec des ficelles, comme s'il manipulait des marionnettes. Qui est le vrai souverain de la zone euro? Qui va décider du sort de l'économie grecque? Et en quelque sorte, nous, dans ces deux cas, nous sommes comme des petits spectateurs. Nous voyons ces pouvoirs différents et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Nous ressentons notre propre faiblesse. En tout cas, ce matin, la question au centre de ce passage est une question qui concerne le pouvoir. Qui est le vrai chef? Qui est le vrai chef de Babylone? Qui est le vrai chef de l'univers? Qui est le vrai chef même de nos vies? Ce chapitre avec le suivant est au cœur de la première section de ce livre. Et l'auteur Daniel veut montrer à ses lecteurs que l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le seul Dieu et c'est le Dieu qui règne de manière absolue sur chacune de nos vies, qu'on en soit conscient ou non. Dans ce chapitre, nous avons affaire, me semble-t-il, à une conversion. C'est le récit de la conversion du roi païen Nebuchadnezzar. C'est un récit tout à fait remarquable. Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents comment ce roi païen a eu affaire au Dieu vivant et vrai. Au chapitre 2, quand Daniel a pu dévoiler un autre rêve, Nebuchadnezzar a dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois ». Et nous avons vu au début du chapitre 3 que malheureusement cette connaissance ne l'a pas conduit à l'adorer. Dans son orgueil, il s'est enfoncé dans l'idolâtrie en construisant une image en or devant laquelle, selon son décret, toutes les nations devaient fléchir le genou. On l'a vu là, il y a deux semaines, c'était sans compter sur la fidélité de quelques Hébreux. Les amis de Daniel, qui ont refusé d'y participer, et c'est le Dieu d'Israël qui les a sauvés de la fournaise ardente. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar, ce roi païen, a été obligé d'émettre un autre décret, bien différent du premier. Et il a dit au chapitre 3, « Voici maintenant le décret que je donne. Tout homme à quelque peuple, à nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Mais comme nous allons voir, combien même Nebuchadnezzar a reconnu la seigneurie de l'Éternel et sa capacité unique au monde de délivrer son peuple, en fait, il n'avait pas encore fléchi le genou devant lui. Son cœur était encore très hostile à l'Éternel. Mais on voit dans ce passage que Dieu va changer la situation. On va être témoin d'une conversion que Dieu lui-même a opérée. Et en fait, les premiers versets de notre passage en témoignent. C'est Nebuchadnezzar lui-même qui en témoigne. C'est les versets 31 à 33 du chapitre 3. Et là, Nebuchadnezzar nous donne un peu la clé de ce récit. Il nous donne, même d'en parler, il nous donne le sens de ce passage. Il parle d'un signe qu'il a vu et expérimenté. Et il veut annoncer au monde entier ce message concernant Dieu. Et il dit, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Et ça, c'est le message central de ce passage. L'Éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, règne. C'est lui le chef, qu'on le veuille ou non. Le règne absolu sur tout l'univers lui appartient, à lui seul. Et ça, c'est un message qui résonne du début jusqu'à la fin de la Bible. Et c'est un message que nous avons besoin d'entendre, de réentendre, et surtout d'accepter dans les tréfonds de notre cœur. En fait, notre santé spirituelle en dépend. Bon, ce matin, nous allons méditer sur cette souveraineté. Il nous envoie premièrement que l'Éternel règne, qu'il est vraiment le souverain qui règne sur tout l'univers. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir un autre aspect de sa personne, c'est-à-dire sa bonté, sa bienveillance. Avant de voir dans un troisième temps comment la connaissance de Dieu devrait toucher nos cœurs et nous conduire à l'humilité profonde. D'abord, l'Éternel règne. Alors que ça soit l'idée maîtresse, clé de ce passage est assez évident. Il y a un refrain dans chaque section de ce passage qui fait écho à ce que Nebuchadnezzar a dit dans son témoignage. Lorsque Nebuchadnezzar raconte ce qu'il a vu dans son rêve, ce grand arbre qui a été abattu, nous découvrons le sens de ce rêve assez rapidement. Les veilleurs qui viennent de l'Éternel nous le disent au verset 14. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce verset 14. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qui peut y faire accéder le plus bas des hommes. Alors c'est un message d'abord pour le roi, mais aussi on le voit ici pour tous les êtres vivants, pour moi, pour vous, pour vos enfants. Et ce refrain se répète au verset 22 et ensuite, plus tard, plus loin, au verset 31. L'Éternel règne. C'est lui le souverain de l'univers. Même sur les rois les plus puissants qui existent. Alors ce récit raconte une véritable humiliation. Ce grand arbre représente Nebuchadnezzar et son royaume à Babylone. Et on l'a dit il y a quelques semaines, Babylone était vraiment une superpuissance. Babylone et ses jardins suspendus étaient une des merveilles de l'Antiquité. Et cet empire s'étalait sur plein de pays, plein de peuples. Et c'est incontestable. Nebuchadnezzar fut un grand roi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le rêve annonce que ce roi superpuissant sera réduit à l'état d'un animal. Ce récit raconte une véritable humiliation. Alors, on voit ici qu'il n'y a que Daniel qui peut interpréter ce rêve, même si en quelque sorte ce rêve, en tout cas quelques éléments du rêve sont assez clairs. En fait, peut-être c'est que lui qui ose interpréter ce rêve, qui ose dire une telle chose au roi. En tout cas, Daniel doit annoncer que cet arbre, ce royaume, ce roi finalement, va être abattu. Il va tomber de manière violente par terre. Son existence deviendra humiliante. Et dans le fond, ce récit... C'est le récit de la victoire de Dieu sur l'orgueil humain. Et on voit ça dans la dernière phrase de ce récit, c'est dans la bouche du roi Nebuchadnezzar. Il reconnaît, il dit, il, c'est-à-dire l'Éternel, peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Je pense que c'est vrai pour nous tous, l'orgueil c'est un trait de caractère qui nous énerve, si on a un N plus 1 au travail qui est arrogant, méprisant, orgueilleux, c'est vrai que la vie devient vraiment difficile. On peut avoir le sentiment d'être écrasé ou d'être méprisable. Si un président de la République se comporte de manière hautaine, dédaigneuse, c'est sûr, il ne gagne pas la faveur du peuple. L'orgueil, c'est un trait de caractère avilissant. Les Allemands ont inventé un mot pour exprimer le sentiment qu'on ressent lorsqu'on voit une telle personne orgueilleuse tomber. C'est le mot Schadenfreude. C'est un peu la joie qu'on ressent lorsqu'on voit la chute de quelqu'un d'autre. Et Nebuchadnezzar, on le voit, lui, il est rempli d'orgueil. Il se croit le plus fort, le plus noble, le plus extraordinaire. Et malgré ce qu'il a déjà dit au chapitre 2 et chapitre 3, il ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, qui est le vrai souverain sur toutes choses. On voit dans ce passage combien ce roi tient quand même à entendre l'explication de ce rêve. Mais on voit après que malgré tout, il continue de vivre comme si de rien n'était. Peut-être avec le temps qui passait, il espérait que finalement le rêve de Daniel, de son rêve expliqué par Daniel, allait simplement tomber à l'eau. Les semaines passent, il a dû se dire, bon, finalement c'était qu'un simple cauchemar. Mais soudainement, nous lisons au verset 25, tout cela devint réalité pour le roi. Verset 27, on voit son orgueil. N'est-ce pas Babylone la Grande, celle que moi-même j'ai construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma majesté. Et on voit dans ce passage qu'il a vécu ce proverbe célèbre, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'Éternel a abattu cet arbre plein d'orgueil qui cherchait sa propre gloire au lieu de reconnaître celle de l'Éternel. Ce passage nous montre que l'Éternel règne. Dieu est maître même sur les rois les plus puissants de la terre. Et dans un instant, il est abattu. Son règne puissant s'écroule et sa royauté lui est retirée. Oui, c'est l'Éternel qui règne, et non pas l'homme, y compris Nebuchadnezzar. Et ça, je pense, c'est un fait que nous avons tous du mal à reconnaître. Que l'Éternel règne, et non pas l'homme. Dans le jardin d'Éden, c'est l'orgueil qui a poussé Adam et Ève à chercher à s'ériger au même niveau que Dieu. C'était bien sûr de la folie. En fait, l'orgueil humain est toujours une folie. Nous vivons dans le monde de notre Créateur et notre prochain souffle dépend de lui. Et nous nous comportons comme s'il n'était pas là, comme s'il n'avait jamais parlé, comme s'il n'avait pas d'exigence morale, comme si nous étions finalement nous-mêmes les petits souverains de nos vies, de notre univers. Et pourtant, l'Éternel règne sur nos vies. Pas juste sur le plan large de l'histoire, mais sur tous les détails de notre vie. Et ça, c'est un fait que nous avons bien du mal à reconnaître. Et pourtant, les Écritures sont très claires. Dans le livre de Lamentations, qui a été écrit à peu près au même moment, pendant l'exil, on lit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?» N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? L'Éternel règne et il est libre dans son règne. Ses décrets sont éternels, ses décrets ne changent pas, on ne peut pas changer ses décrets. Tout ce qui nous arrive dans la vie est selon le décret de l'Éternel. Alors, ça c'est parfois mystérieux. On a parfois du mal à comprendre comment ça se fait que tout ce qui nous arrive dans la vie est quand même selon le décret de l'Éternel. Il n'est pourtant pas l'auteur du mal. On voit aussi dans Lamentation que ça ne réjouit pas son cœur d'affliger les hommes. Mais il règne. Il y a des moments précis de nos vies. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de couper, d'abattre l'arbre de notre orgueil. Et sans doute beaucoup de chrétiens pourraient témoigner de comment une maladie, comment la mort d'un proche, comment la perte d'un emploi, comment quelque chose les a profondément fragilisés et comment ça a eu pour effet d'être humilié devant Dieu. Ça a fermé notre bouche et on est obligé de reconnaître que seul Dieu règne, que seul Dieu est le vrai chef de l'univers, le vrai chef de nos vies. Selon William Temple, c'était un archevêque anglican, l'essence du péché, c'est que je fais de moi-même, de multiples manières, le centre de l'univers. Alors ça veut dire que nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu, être à lui, si nous ne le reconnaissons pas comme le vrai souverain, libre de l'univers, mais aussi de nos vies. Dans ce récit, Dieu fait abattre l'orgueil de Nabucodonosor pour que ce roi reconnaisse que Dieu est Dieu. Et finalement, Dieu veut faire la même chose dans nos vies. Il veut que nous reconnaissions que finalement, ce n'est pas nous qui soyons les vrais rois de nos vies, mais Dieu est Dieu. Dieu seul maîtrise nos lendemains. Comme on a vu au chapitre 2, il n'y a que Dieu qui sait ce qui est dans les ténèbres, qui sait ce qui va nous arriver demain. Il est libre et souverain. Et comme on voit dans ce passage, il fait ce qu'il désire. Nos cœurs bien tordus préfèrent parfois façonner un Dieu beaucoup plus malléable, un Dieu qu'on peut parfois ou qu'on peut prétendre contrôler, un Dieu à qui nous pouvons donner des décrets en disant « guéris-moi maintenant » ou « convertis tel ou tel, rends-moi heureux, fais en sorte que je m'épanouisse, donne-moi ceci, donne-moi un conjoint, un enfant, un emploi, un ministère, une bénédiction et j'en passe ». Et on peut être tenté de construire une spiritualité centrée sur nous-mêmes, sur nos besoins, où le Dieu souverain et libre n'est plus au centre. Et cette spiritualité-là révèle une ignorance orgueilleuse, une ignorance du Dieu vivant et vrai. Alors dans ce récit, on voit que Nabucodonosor, dans son entêtement, va heurter le mur qui est Dieu lui-même. Dieu va abattre son orgueil jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu. Et lui, Nabucodonosor, ne l'est pas. Que Dieu est le souverain. Et que lui, Nabucodonosor, ne maîtrise pas les détails de sa vie. Alors l'Éternel règne. C'est vraiment l'idée maîtresse de ce passage. Mais Daniel veut que nous voyions que son règne, qui est absolu et libre, est finalement un règne bienveillant. Nous sommes à ce deuxième point ce matin. Nous n'avons pas l'habitude de rois absolus qui sont bienveillants. Notre histoire humaine est truffée d'exemples du contraire. D'habitude, plus un roi serre les boulons pour tout contrôler, plus il est méchant et dur, capricieux. Mais on voit dans ce passage que l'Éternel qui est souverain est tout autre. Déjà, il a parlé à ce roi si arrogant. Il lui a donné ce rêve qui lui a fait si peur. En fait, dans sa grâce, Dieu lui a donné un cauchemar. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça. Dieu sait faire peur aux gens. Mais il le fait parce qu'il est bienveillant. Il aurait pu ne pas lui donner cet avertissement. Il aurait pu tout simplement l'abattre avec cette maladie avilissante. Mais il lui a parlé. Et dans sa grâce, il a même suscité un homme, Daniel, pour lui annoncer la parole de Dieu. Vous êtes peut-être parmi nous ce matin parce que vous enquêtez sur la foi chrétienne, vous enquêtez un peu sur le message de la foi chrétienne, sa pertinence pour vous. Déjà, j'aimerais vous dire vraiment, vous êtes les bienvenus parmi nous. Peut-être pour vous, ce passage, ce message d'un Dieu souverain qui fait abattre l'arrogance des hommes, vous semble un peu dur, un peu déplacé. Vous voulez peut-être plutôt un Dieu d'amour, un Dieu qui vous accepte tel que vous êtes, un Dieu tolérant. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu juste, un Dieu qui ne tolère pas le mal. En fait, il ne tolère pas notre orgueil déplacé, notre refus de son règne. Et dans sa bienveillance, il nous avertit, comme il a averti Nebuchadnezzar. On voit ici que Daniel n'était pas un homme insensible ou dur. Ce qu'il a compris de ce rêve l'a troublé aussi. Il a pu dire de manière sincère au verset 16, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Et je pense de la même manière, c'est pas simple, c'est pas facile pour nous d'annoncer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur tous les hommes. C'est pas facile d'annoncer la colère de Dieu à l'égard de l'arrogance des hommes. Mais finalement, c'est un message de bienveillance. Parce qu'il vaut mieux être bien averti. Après avoir expliqué les implications de ce rêve, Daniel ose exhorter ce roi. C'est ce qu'on voit au verset 24. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Alors pourquoi est-ce que Daniel fait ça? En fait, c'est parce que dans la prophétie biblique, il y a un aspect conditionnel. Dieu annonce ce qu'il va faire, il annonce ce qu'il va faire au roi Nebuchadnezzar, mais c'est sous-entendu que s'il devait se repentir, il y a des chances, c'est pas sûr, mais que Dieu changerait d'avis, que Dieu renoncerait au jugement qu'il avait prévu. Et Daniel est en train d'exhorter ce roi à se jeter aux pieds de l'Éternel et implorer sa grâce dans la repentance. Il est en train d'exhorter ce roi à cesser d'être arrogant, à cesser d'être orgueilleux, cet orgueil qui, en cherchant sa propre gloire, a écrasé son peuple. Daniel lui montre la voie du pardon. Il met devant ses yeux le message de la grâce. Il met devant ses yeux le message du roi, du Dieu juste et bienveillant. Alors on voit dans la suite du passage que 12 mois écoulent avant que cette catastrophe ne lui arrive. En fait, c'est parce que Dieu lui donnait du temps. Dieu patientait avec Nebuchadnezzar. Il lui a donné le temps de dire, stop, non, c'est Dieu qui est Dieu. C'est pas moi qui est Dieu. Il lui a donné le temps de rechercher sa face, de rechercher sa bienveillance. Mais comme j'ai dit, sans doute, Nebuchadnezzar est devenu un peu blasé. Avec le temps qui passait, il a dû se dire, non, finalement ça va pas arriver. Pourtant, Dieu patientait avec lui. Mais la bienveillance de Dieu va encore plus loin que ça. Il lui a annoncé que cette maladie affligeante, abattissante, n'allait durer que 7 ans. On ne sait pas trop exactement ce que ça représente en termes de temps. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait dans la pensée hébraïque. En tout cas, au moment que Dieu a choisi, Dieu est souverain. Et au terme de ce temps, nous voyons que Nebuchadnezzar lève les yeux vers le ciel. On le voit au verset 31. Au même moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Et on voit dans ces détails que Dieu est souverain même sur ces détails-là. Parce que c'est Dieu qui lui a restauré la raison. Si bien qu'il puisse reconnaître que Dieu est Dieu, que c'est lui seul qui règne éternellement. En fait, on voit là un acte de pure grâce, de grâce souveraine. C'est pas Nebuchadnezzar qui a pu faire ça. Il était dans un état animalier. Il n'avait pas sa raison. Il était incapable de choisir Dieu, incapable de se repentir de lui-même. Mais dans sa grâce absolue et libre, Dieu est intervenu. Et c'est lui, Dieu, qui lui a donné de voir clair. Et le salut est toujours comme ça pour chacun de nous. Le salut est toujours l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. L'apôtre Paul nous explique que c'est ainsi afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Et lorsqu'on voit clair, lorsque Dieu nous ouvre les yeux, on voit que c'est Dieu qui est Dieu. Et que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes que des hommes. Nous voyons que c'est lui qui règne. Et que c'est de la folie de penser que nous pouvons régner sur nos propres vies, sur nos propres destins. On voit dans ce passage que finalement la foi chrétienne est raisonnable. Ne pas se confier humblement en l'Éternel, ça c'est le contraire de la raison. C'est de l'orgueil illusoire, déraisonnable, fou. Dieu a eu compassion de Nebuchadnezzar. Il a pu s'agenouiller devant le roi, le vrai roi souverain de l'univers. Dans le Nouveau Testament, nous parlons de la nouvelle naissance, c'est-à-dire un renouvellement spirituel opéré par Dieu qui nous permet de voir clair, qui change notre cœur, qui nous donne un nouveau cœur, qui s'entête plus, mais qui aime Dieu. Daniel 4 nous montre que c'est l'Éternel qui règne et que son règne est bienveillant. C'est lui qui peut donner cette nouvelle naissance à des hommes et des femmes orgueilleux. Alors comment est-ce qu'on va répondre au message que Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar il y a 2600 ans? Alors si nous suivons ce thème du règne de l'Éternel jusqu'aux pages du Nouveau Testament, nous découvrons que Dieu, dans sa patience, dans sa bienveillance, nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et ce Fils est celui par qui il a choisi de gouverner le monde tout entier. Jésus est le roi du royaume de Dieu. Ce royaume qui est aussi comme un grand arbre qui fait du bien à tous ceux qui trouvent refuge sous ses branches. Dans sa bienveillance, Dieu nous parle par Jésus le roi et Dieu nous avertit par lui. L'apôtre Paul a expliqué à quelques philosophes grecs à Athènes comment ça se passe, comment ça marche. Il a dit « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance ». Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Dieu nous a donné un signe, comme il a donné un signe à Nebuchadnezzar. Dieu donne la royauté à qui il le désire. Il y a fait accéder le plus humble des hommes, celui qui fut méprisé, crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a fait asseoir à sa droite, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Oh, peut-être ça fait un moment que vous cheminez avec nous à l'église, sans avoir forcément fléchi le genou devant Jésus, sans vraiment le reconnaître comme le vrai chef, non seulement de l'univers, mais de votre propre vie. En fait, Dieu vous fait grâce en vous faisant entendre la bonne nouvelle d'un roi divin absolu qui est bienveillant. Qui est tellement bienveillant qu'il a humblement donné sa vie à la croix pour que des hommes et des femmes remplis d'orgueil puissent échapper à la colère bien méritée de Dieu. Et Dieu patiente avec vous. Et comme l'apôtre Pierre explique, il le fait parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Comme Daniel a sommé Nebuchadnezzar de se repentir, en fait, l'évangile, le roi Jésus nous somme de la même manière à nous agenouiller devant lui, devant Jésus, devant ce roi puissant et bon, en qui, par la grâce seule, il y a un plein pardon. Alors, si c'est vous ce matin, est-ce que vous voulez bien faire ça? Vous agenouiller devant le roi Jésus, ce roi absolu, libre, mais profondément bienveillant. Vous pouvez vous adresser à Dieu dans la prière et lui adresser une prière de repentance. Si vous êtes déjà un disciple de Jésus-Christ, est-ce que vous reconnaissez Jésus comme le vrai Seigneur, le vrai chef de votre vie? Le chef par lequel Dieu a choisi de régner sur votre vie. Parfois, j'entends les gens dire « Moi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais c'est ensuite, des années plus tard, que je me suis rendu compte qu'il était aussi le Seigneur. » C'est parce que notre tendance naturelle, c'est de vouloir un évangile centré sur l'homme, centré sur nos besoins, sur nos souhaits. En quelque sorte, on accepte Jésus pour qu'il soit notre police d'assurance, ou on le veut pour qu'il soit notre thérapeute dans la vie, pour que nous puissions profiter au maximum de la vie. Mais on n'a pas vraiment envie de nous agenouiller devant lui. On veut un peu de Jésus pour nous donner bonne conscience, pour nous sentir bien, pour nous sentir en sécurité. Mais on ne veut pas vraiment d'un Seigneur qui abat l'orgueil de l'homme, qui abat notre orgueil. Cette foi, cette spiritualité centrée sur l'homme qui ne fléchit pas le genou devant Jésus. Alors notre Dieu n'est pas un Dieu dur ou méchant, mais un Dieu souverain et libre qui est rempli de bienveillance et de compassion. Nous pouvons nous agenouiller devant lui. Nous pouvons nous soumettre à lui. Nous pouvons lui soumettre nos vies, nos familles, nos projets, nos finances, nos carrières, notre santé, parce qu'il maîtrise tout. Et comme on a vu tout à l'heure, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dans sa présence, notre orgueil s'écroule. Et la connaissance de ce Dieu souverain et bienveillant produit en nous cette révérence, cette humilité et cette confiance. Si en Jésus-Christ, nous avons fait la connaissance de ce Dieu souverain et bon, on va avoir la même envie qui a poussé Nebuchadnezzar à annoncer au monde entier la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons venir devant toi ce matin et reconnaître que c'est toi, le vrai chef de l'univers. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui règne souverainement, librement, sur l'univers, sur les détails de nos vies. Et Père, nous voulons nous agenouiller devant toi. Nous voulons fléchir le genou devant le roi que tu nous as donné, Jésus, et te dire pardon pour notre orgueil. De multiples manières, nous avons vécu comme si nous sommes au centre de l'univers, comme si nous étions le chef de l'univers, comme si nous pouvions régner sur nos vies, sur nos destins. Et bien, nous voulons te dire humblement pardon pour notre orgueil, pour cette folie qui anime notre cœur. Notre Père, nous voulons venir devant toi humblement et chercher refuge en Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné ton roi, ton fils, qui, en toute humilité, a pris sur la croix, qui a donné sa vie sur la croix pour que des hommes et des femmes remplis d'orgueil comme nous puissent être réconciliés à toi. Et notre Père, nous voulons te dire merci. Si nous sommes à toi, c'est uniquement grâce à toi, grâce à ton œuvre. C'est toi qui nous as fait naître de nouveau. Nous n'y étions pour rien. Et Père, nous voulons vraiment te dire merci du fond de nos cœurs et te louer ce matin et te dire que toi, tu es le roi glorieux, le roi à qui toute gloire doit revenir. Merci, notre bon Père Céleste, pour le privilège, pour la grâce d'être à toi ce matin. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.